Europe 1. Bienvenue au cœur de l'histoire. Je suis Virginie Giraud. Alexandre le Grand. Son nom évoque les conquêtes de la Grèce jusqu'aux portes de l'Inde. Ce souverain macédonien est aussi celui qui a fondé Alexandrie, le port le plus florissant d'Égypte. C'est là que se trouve le phare considéré comme l'une des sept merveilles du monde. Jules César, Louis XIV et Napoléon, tous les grands hommes ont voulu lui ressembler. Il incarne à la fois la virilité triomphante et les amours homosexuels. Je me suis replongée dans sa biographie pour tenter de démêler ce qui relevait de la légende et de l'histoire vraie de ce chef de guerre invincible pour contempler à la fois sa face lumineuse et son côté sombre. C'est son histoire qui semble bénie des dieux que je vais vous raconter dans un récit en deux parties. Alexandre le Grand, l'ivresse des conquêtes. Épisode 1, le fils de Zeus. Nous sommes près de la ville de Samarcande, sur le territoire de l'Ouzbékistan actuel, en 328 avant Jésus-Christ. Alexandre le Grand vient de se rendre maître de la région. Cela fait 6 ans qu'il ne connaît aucune défaite. Tous les territoires allant de la Grèce jusqu'aux portes de l'Inde lui appartiennent. Pour fêter sa victoire, le jeune roi de 28 ans a organisé un dîner fastueux avec ses généraux. Le vin coule à flot et, comme d'habitude, Alexandre boit trop. À l'ivresse du vin se mêle celle des paroles flatteuses. Les officiers, les uns après les autres, se lancent dans son éloge. Soudain, du fond de la salle, une voix s'élève. Malgré les brumes de l'alcool, Alexandre reconnaît celle d'un de ses officiers les plus proches. Kleitos le Noir est un soutien de la première heure. Il est aussi le frère de son ancienne nourrice. Son ton acide tranche avec les accents mielleux des flagorneurs. Ses victoires, Alexandre les a obtenues grâce à son armée. Et lui-même, Kleitos, lui a sauvé la vie à la bataille du Granique 6 ans plus tôt. Sans lui, le roi n'en serait pas là. Alexandre se tourne vers Kleitos et l'insulte copieusement. Pour éviter un drame, les gardes font sortir l'officier de la salle de banquet. L'heure est à la fête, inutile d'en venir aux mains. Mais Kleitos estime qu'à presque 50 ans, il est en droit de dire ce qu'il pense au jeune roi. Pris de fureur, Alexandre attrape une lance et transperce le corps du trouble-fête. Sa colère retombe instantanément. Alors que Kleitos s'effondre dans une mare de sang, Alexandre réalise la gravité de son geste. Effondré, il se jette sur le cadavre encore chaud de son vieil ami, il sort une arme et retourne la lame contre lui. Quand le jeune Alexandre naît le 21 juillet 256 avant Jésus-Christ, le royaume de Macédoine, dont son père Philippe II est le roi, est prospère. Vu d'Athènes, ce territoire au nord de la Grèce est peuplé de barbares. Mais pour Philippe II, la Macédoine, c'est le cœur de la Grèce. À ce titre, il mène une politique expansionniste. Il rêve d'unifier la région composée de petits royaumes et de cités-états. La naissance d'un héritier est de bon augure pour un roi. Sauf qu'aux yeux de sa femme, Olympias, Alexandre n'est pas le fils de Philippe II. Vous allez comprendre pourquoi. Olympias est une princesse d'Épire, une région qui correspond à l'Albanie d'aujourd'hui. C'est aussi une mystique connue pour ses danses en l'honneur des dieux avec d'énormes serpents qui s'enroulent le long de son corps. Comme ces serpents sont sacrés, elle les garde dans son lit la nuit, ce qui horrifie son époux. Il préfère rejoindre celui de ses concubines et de ses autres femmes, avec les risques que cela comporte pour Olympias, la naissance d'autres héritiers. Mais Olympias est certaine de la supériorité de son fils. Le jour de la conception d'Alexandre, le tonnerre a grondé. Et le tonnerre, c'est le symbole de Zeus. Son fils est donc celui du roi des dieux. Ça peut nous paraître fou aujourd'hui, cette fable inventée par Olympias. Mais à son époque, les Grecs sont très superstitieux. Elle croit donc sincèrement que Zeus est le père de son fils. Et en lui mettant ça dans le crâne, elle lui offre une confiance en lui à toute épreuve et une légitimité de roi conquérant. C'est un cadeau de la part d'une mère très ambitieuse à un fils prometteur. Les Macédoniens élèvent les enfants à la dure. Il faut savoir se battre et être le plus fort. Mais cette violence n'exclut pas le raffinement. Philippe II a fait venir le célèbre philosophe Aristote à sa cour. Celui-ci dispense souvent ses leçons dans la nature. Ses élèves sont des garçons issus de l'aristocratie. Il leur apprend la philosophie, bien sûr, l'art de faire des discours, la rhétorique, mais aussi l'art de la politique. Souvent, il les emmène en promenade pour leur apprendre à observer les animaux et les plantes. Pour inspirer au jeune Alexandre le goût des conquêtes, Aristote lui fait lire l'Iliade. L'Iliade, c'est le chef-d'œuvre du poète Homère qui raconte la guerre de Troie. Même si ce récit est plus mythologique qu'historique, il a été le livre d'école de tous les enfants du monde gréco-romain pendant près de 1000 ans. Aristote en offre même une copie annotée à son élève qui l'emmènera partout avec lui. Mais ce n'est pas à l'école que le jeune Alexandre, maintenant adolescent, va devoir faire ses preuves de futur roi. Un jour, un maquignon vient vendre des chevaux à Philippe II. L'un d'eux est un puissant cheval noir qu'aucun homme ne parvient à monter. Alexandre l'observe et comprend d'un coup pourquoi le cheval se cabre. Il demande à son père l'autorisation de monter l'animal. Philippe II se moque de son fils, mais il lui laisse une chance. Alexandre s'approche du cheval, il le tourne face au soleil, il grimpe sur son dos et il part au galop. Il avait compris que l'animal avait peur de son ombre et qu'il fallait le tourner vers le soleil pour qu'il ne soit pas effrayé. Alexandre appelle sa nouvelle monture Bucéphale. Il sera désormais son compagnon dans toutes ses conquêtes. Pour nous les historiens, c'est toujours un peu difficile de démêler la part de mythe et la part de réel dans ce genre d'histoire. Je pense qu'il faut plutôt y voir un rite de passage de l'enfance vers l'âge adulte. Maintenant, Alexandre est prêt à suivre son père sur le champ de bataille, mais avant, il doit montrer qu'il est un homme. Oui, vous me voyez venir. Il doit se conduire comme un homme avec les femmes. Les textes anciens racontent que c'est Olympias, sa mère, qui a choisi la femme avec qui son fils perdrait sa virginité. Elle a jeté son dévolu sur la plus belle courtisane de Macédoine, Calixène. Il semblerait que cette professionnelle ait passé la nuit entière à discuter avec lui avant de réussir à le déniaiser. Alexandre n'a apparemment aucune passion pour les femmes. En revanche, il est très proche de son camarade Héphaïstion. À cette époque, l'homosexualité fait partie des mœurs. Ça ne gêne personne si l'amitié d'Alexandre pour son camarade est teintée de désir. Elle n'empêche pas le mariage qui a d'autres fonctions sociales, forger des alliances politiques et mettre au monde des héritiers. Nous sommes maintenant en 338 avant Jésus-Christ. Alexandre a 18 ans. Il suit son père pour la première fois sur le champ de bataille de Chéronée, au nord de la Grèce. Les Athéniens et les Thébains se sont coalisés contre la Macédoine pour l'empêcher d'étendre son pouvoir politique sur la péninsule. Philippe II et Alexandre sont à la tête de 30 000 hommes. En face d'eux, il y a 35 000 fantassins dont le bataillon sacré de Thèbes, un corps d'élite composé de 150 couples de soldats. Ceux-ci se battent à la fois pour leur patrie et la vie de leur aimé. Cette double motivation les rend particulièrement pugnaces. Alexandre décide d'affronter le bataillon sacré et il parvient à l'écraser. Cette victoire lui vaut l'admiration et le respect de ses soldats. Philippe II en vient lui-même à jalouser son fils. Mais l'essentiel est ailleurs. Les Grecs sont vaincus et le roi de Macédoine assoit sa domination sur la région. 2 ans plus tard, un événement tragique précipite le destin du jeune Alexandre. Son père, Philippe II, est assassiné par un de ses gardes pendant une fête familiale. Alexandre, qui a 20 ans, lui succède. Pour prouver qu'il n'a pas ourdi de complot contre son père, il lui offre des funérailles fastueuses et un sublime tombeau, le tumulus de Vergina, dont les archéologues ont retrouvé les vestiges dans les années 1970. Maintenant, Alexandre rêve de poursuivre la politique expansionniste de son père et de diffuser la culture grecque dans le monde. Philippe et Aristote l'ont éduqué pour ça. Le regard du jeune roi se tourne vers l'Asie mineure, le berceau de l'Empire perse. Alexandre voudrait se rendre maître de cet empire aussi vaste que riche. Mais pour ça, il faut vaincre l'empereur Darius III. Pour être sûr d'y parvenir, Alexandre veut avoir la bénédiction des dieux. Pour ça, il se rend à Delphes, l'un des sanctuaires les plus sacrés de Grèce. C'est là que la pitié rend ses oracles. Dit comme ça, c'est un peu mystérieux. Laissez-moi vous en dire davantage. Dans le temple d'Apollon à Delphes, il y aurait une faille de laquelle montraient des gaz volcaniques. C'est au-dessus de cette faille qu'on plaçait celle qu'on appelle la pitié. Grâce à l'entremise des dieux, elle pouvait voir l'avenir. Cette femme était choisie dans les villages de montagne alentour par les prêtres du temple. Elle ne devait avoir aucune éducation et craindre les dieux. En d'autres termes, elle devait être un peu simplette. La jeune femme élue devenait donc la pitié de Delphes, ce qui était un statut prestigieux à l'époque. En respirant les gaz volcaniques, elle entrait en transe et proférait des sons et des mots énigmatiques que les prêtres traduisaient en prophéties. Ces prophéties pouvaient généralement être interprétées de plusieurs manières différentes. Chacun y voyait donc ce qui l'arrangeait, un peu comme dans nos horoscopes. Le jour où Alexandre arrive à Delphes, la pitié refuse de siéger. Le roi la traîne de force dans le temple. Jetée au-dessus de sa faille par le fils de Philippe, la pitié se serait écriée « Personne ne résiste au roi de Macédoine ». Pour Alexandre, c'en est assez. Les dieux lui promettent qu'il sera vainqueur. Il peut partir conquérir l'Asie. Alexandre a 22 ans en 334 avant Jésus-Christ quand il débarque en Asie mineure, c'est-à-dire en actuelle Turquie, avec 40 000 hommes. Son premier réflexe est religieux. Il va visiter le tombeau d'Achille, le héros de l'Iliade. Avant d'entrer dans le tombeau, il se déshabille complètement et il vient faire son offrande nue sur la tombe d'Achille. Il faut bien comprendre qu'à l'époque, sa confiance en lui est poussée à son paroxysme par ses superstitions. Quelques semaines plus tard, au mois de mai, il affronte pour la première fois les soldats perses à la bataille du Granic. Chaque garnison se trouve d'un côté de la rivière. Alexandre doit la traverser pour continuer à avancer en terrain perse. Il a 10 000 hommes de moins que ses ennemis. Mais pour prendre le dessus, le roi de Macédoine va avoir une idée brillante. Pour découvrir la suite de ce récit consacré à Alexandre le Grand, je vous donne rendez-vous sur votre plateforme d'écoute préférée. À bientôt !